Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Eh bien, comme vous le savez, le modèle ministériel utilisé ici à l'Église de la Grâce, depuis des années, consiste à parcourir les livres de la Bible. Et actuellement, nous sommes supposés être dans l'Évangile de Luc, et nous y serons à nouveau dimanche prochain, je pense. De temps en temps, cependant, il y a des questions qui sont cruciales, qu'il faut comprendre, des sujets qu'il faut aborder du point de vue biblique, et nous en examinons une depuis la semaine dernière. La question en cours est, les païens peuvent-ils être sauvés sans l'Évangile? J'ai essayé d'introduire cela, il y a quelques semaines, comme une question très importante qui se pose de nos jours. J'ai insisté dessus lors du dernier jour du Seigneur, et nous avons démarré ce qui constitue essentiellement une étude à deux facettes, et j'aimerais la poursuivre aujourd'hui en présentant des excuses à ceux d'entre vous qui n'étaient pas là la semaine dernière. Je pourrais vous encourager à vous procurer la cassette qui est disponible ce matin, étant donné qu'il s'agit d'un sujet vraiment capital. Par ailleurs, ceci ne sera pas vraiment comme un sermon. Ce sera juste comme si je tentais d'attirer votre attention sur un certain nombre de choses, en me servant des écritures pertinentes, pour vous permettre de comprendre la question qui se pose à nous par rapport à l'Évangile. Et peut-être juste un autre commentaire avant que je n'entre dans ce que j'ai prévu de vous dire. Pour réussir à créer les plus grands dommages possibles à l'Église, Satan a besoin d'embrouiller l'Église au sujet de l'Évangile. Car si nous ne savons pas ce qu'est l'Évangile, alors nous sommes véritablement inefficaces dans le monde. Et il a vraiment fait du beau boulot dans ce sens au cours des années. La confusion au sujet de l'Évangile règne non seulement dans le libéralisme et les fausses formes de christianisme, mais elle est également présente aujourd'hui au sein du monde évangélique. En fait, l'évangélisme a franchi ses limites traditionnelles et est devenu si amorphe qu'il aurait besoin d'être redéfini. Au sein du grand cadre informe qu'est le terme évangélique, cependant, il y a une grande confusion au sujet de l'Évangile. Et si cela n'est pas assez grave, alors Satan a ajouté une nouvelle couche de confusion. Non seulement nous ne comprenons pas vraiment ce qu'est l'Évangile, mais nous ne sommes même plus certains de la nécessité de prêcher l'Évangile. Parce qu'on nous dit aujourd'hui que des gens peuvent parvenir au salut sans l'Évangile, sans la connaissance de Jésus-Christ, sans la Bible. Ainsi, non seulement confuse au sujet de l'Évangile, mais également embrouillé au sujet de la grande mission. L'Église se voit ravir de son grand pouvoir. Nous avons par conséquent parlé de ce qu'est l'Évangile dans une série sur la délivrance. Vous vous en souvenez. Je pense aussi message, définissant ce que cela signifie vraiment que d'être un chrétien. Et à présent, j'aimerais vous donner ces deux messages intitulés « Les païens peuvent-ils être sauvés sans l'Évangile ?» Juste cette dernière édition de Christianity Today, Christianisme aujourd'hui. Je la lisais hier, et il y a un paragraphe dans un article particulier qui propose que nous arrêtions de nous quereller et de nous disputer sur la question de savoir si Dieu sauvera ou non les gens sans l'Évangile, afin de tout bonnement vaquer à d'autres occupations. Eh bien, il n'y a pas vraiment d'autre chose aussi importante que de prêcher l'Évangile. Ce n'est pas quelque chose de futile. Ce n'est pas quelque chose qui pourrait se réduire à un ergotage. Le fait de prêcher ou non l'Évangile constitue une question cruciale. Et si Satan parvient à banaliser une compréhension claire de la théologie de l'Évangile et banaliser notre compréhension de la nécessité de prêcher l'Évangile, c'est qu'il a remporté une victoire immense. Nous allons donc contre-attaquer dans cette série, et nous allons utiliser les Écritures pour que les choses soient bien claires sur la question de savoir si les païens peuvent être ou non sauvés sans l'Évangile. Jésus lui-même a dit que la porte qui mène au royaume éternel est étroite. Étroite, Matthieu 7, et que peu de personnes la trouvent. Ceux qui défendent ce genre de salut universel, qui passerait par plusieurs chemins et plusieurs religions, doivent avoir beaucoup de mal à faire tenir cela dans Matthieu 7, où Jésus affirme clairement que la porte est très très obscure. Elle est difficile à trouver, et elle est très étroite, ce qui fait que peu de gens la trouvent, et peu parviennent à y entrer. Bien entendu, le Nouveau Testament poursuit en disant que les seules personnes qui y entrent le font parce qu'elles croient en l'Évangile de Jésus-Christ et embrassent l'Évangile de Jésus-Christ. Il faut qu'elles aient entendu parler de Dieu. Il faut qu'elles aient entendu parler de Christ. Elles doivent être au courant de ce qu'il a fait. Elles doivent croire cela et l'embrasser, puisque cela est vrai. L'Écriture et le Seigneur lui-même nous ont clairement commandé à travers la grande mission de porter l'Évangile à toute la création, de porter l'Évangile à toute personne sur terre, à quelque époque que ce soit. Et cette grande mission a été le mandat de l'Église, le devoir de l'Église et la passion de l'Église depuis la Pentecôte. Il y a pourtant cette nouvelle vague de théologie aujourd'hui, ou je suppose la réanimation d'une vieille vague doctrinale, qui veut enlever ce devoir, supprimer la nécessité de la grande mission, en affirmant que les gens n'ont pas besoin de la Bible et qu'ils n'ont peut-être pas besoin d'entendre parler de Jésus-Christ ou de l'Évangile pour être sauvés. Cette idéologie que j'ai identifiée la semaine dernière, comme certains l'ont nommée, est la théologie naturelle, selon laquelle l'être humain, par ses capacités naturelles, à savoir l'intuition humaine, la raison humaine, peut s'élever jusqu'à la connaissance de Dieu. Il n'a pas besoin qu'une révélation surnaturelle descende. La raison naturelle qui s'élève serait suffisante. Il peut, avec sa raison naturelle et sa disposition religieuse naturelle, s'élever à une connaissance salvatrice de Dieu, même sans l'aide de la Bible, et sans l'Évangile, et sans une quelconque connaissance de Jésus-Christ. Il va expérimenter une certaine forme de foi, et avoir un certain comportement que Dieu va agréer comme étant un bel effort qui sera suffisant étant donné qu'il ne connaît pas l'Évangile. Et je vous ai montré que non seulement l'Église catholique romaine a affirmé cela, mais que c'est également en train d'être déclaré parmi les dirigeants des milieux évangéliques. Il est dit que les gens peuvent être sauvés dans plusieurs contextes religieux, et même d'absence totale de religion, si seulement ils s'attellent à faire de leur mieux avec l'information dont ils disposent, et en écoutant leur disposition naturelle. Ceci est également appelé par certains évangélistes, comme la vision d'une plus grande miséricorde, qui stipule que la miséricorde est beaucoup plus large que nous ne l'imaginons. Nous pensons que la miséricorde de Dieu n'est réservée qu'à ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, il existerait une miséricorde plus grande qui intégrerait ceux qui ne savent rien au sujet de la Bible ou de Jésus-Christ. Si seulement ils parviennent à faire du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, ils seront sauvés. Maintenant, cette conception ne se contente pas d'attaquer le caractère unique du Dieu trinitaire. C'est uniquement dans la Bible qu'on retrouve Dieu en tant que Trinité. Elle ne s'en prend pas qu'à la naissance virginale, l'incarnation, la vie sans péché du Christ, sa mort et l'expiation substitutive, sa résurrection, son ascension, son intercession, et sa seconde venue, comme s'il ne constituait qu'un moyen parmi tant d'autres d'aller à Dieu. Elle détruit de ce fait l'unicité de l'Écriture. Elle ne fait de la Bible qu'un livre parmi tant d'autres. La Bible permet-elle cependant de le faire? C'est là la question. Vous pouvez y arriver en étant rationnel. Vous pouvez y parvenir grâce à la philosophie. Vous pouvez y aller à l'aide de vos émotions et en vous disant que cela n'est pas vraiment juste. Et la question surgit toujours. Eh bien, qu'en est-il des personnes qui ne sont pas en possession du message? Eh bien, qu'en est-il des gens qui n'ont pas l'Évangile? Réponse numéro 1. Vous feriez donc mieux de le leur porter, parce que c'est ce qu'il nous a été commandé de faire. Numéro 2. Si Dieu, dans son dessein souverain, éternel et électif, a décidé d'amener les gens au salut, alors il va s'assurer qu'ils reçoivent l'Évangile, et nous devons être les instruments à travers lesquels cet Évangile est proclamé. Nous pouvons également conclure, à partir de Romains, chapitre 1, que si les gens prennent la lumière de la création, la lumière de la connaissance de Dieu dans la création, s'ils prennent ce qui leur a été attribué comme indiqué dans Romains 1 et Actes 17, à savoir que Dieu est très près d'eux, que Dieu est visible dans sa création, et s'ils reconnaissent cela, et s'ils reconnaissent par la conscience que Dieu leur a donnée, et la loi écrite dans leur cœur qu'ils sont pécheurs, et s'ils ont un désir véritable de connaître le véritable Dieu, et de lui permettre de régler la question de leur péché, la promesse de l'Écriture, c'est que Dieu éclairera ce cœur en quête. Le prophète de l'Ancien Testament a dit, « Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous quoi ? Me trouverez. » Jésus l'a dit dans le sermon sur la montagne, « Cherchez, et vous trouverez. » mais il y a des gens qui servent cette hérésie au sein des limites amorphes de l'évangélisme, à savoir que bien que Jésus soit le seul sauveur, et il est l'unique sacrifice agréé pour le péché, des personnes seront sauvées sans jamais avoir entendu parler de lui, sans avoir entendu parler de son sacrifice, et sans savoir qu'il n'ait jamais existé, et nous en avons parlé la dernière fois. Où pouvez-vous trouver une réponse à cela? Pas en interrogeant vos émotions, pas en vous adressant à la théologie que vous vous êtes inventée, pas en allant vers votre philosophie, pas par votre raisonnement. Il y a un seul endroit vers lequel il faut se diriger pour répondre à la question. Les païens peuvent-ils être sauvés sans l'Évangile? Et c'est la Bible, d'accord? Écoutons ce que Dieu a à dire. Nous ne savons rien dans le règne spirituel en ce qui concerne le salut, à moins de nous adresser à la révélation surnaturelle de Dieu, qui se trouve dans l'Écriture. Nous n'y accédons pas grâce à notre intuition ou notre raison. Nous pouvons apprendre certaines choses au sujet de Dieu. Nous pouvons en apprendre assez pour être condamnés et non pour être sauvés. Nous pouvons en apprendre assez pour être inexcusables. Nous pouvons en savoir assez pour tâtonner, mais nous ne pouvons pas en apprendre suffisamment pour connaître la vérité. Cela doit venir à travers l'Écriture, et nous le verrons dans un instant. À présent, regardez l'Écriture. La semaine dernière, nous avons examiné Genèse 3, Romains 1, verset 18, et la suite, ainsi que 1 Corinthiens 1, de 18 à 21. Ce que nous y avons vu, c'est que l'être humain, sans l'aide de la révélation, sans l'aide de la révélation surnaturelle qui vient de Dieu, ne peut pas connaître la volonté de Dieu, ne peut pas parvenir à Dieu. En fait, dans Romains 1, bien qu'il connaisse Dieu jusqu'à un certain niveau à travers sa raison, il sait qu'il y a un Créateur, qu'il y a certainement une cause à l'effet par lequel l'univers tout entier existe. Il est capable de comprendre cela par son raisonnement. Sa raison peut lui permettre de saisir un certain nombre de choses sur la toute-puissance de Dieu, certaines choses sur sa divinité, quelque chose au sujet de sa moralité grâce à la conscience. Comme dit Romains 2, mais il ne peut pas parvenir jusqu'à Dieu. Il peut seulement en savoir assez pour être sans excuse. Il ne peut pas en savoir suffisamment pour être sauvé, étant donné que connaître le chemin qui mène au salut exige la révélation des récits qui parlent du salut en Jésus-Christ. Nous avons donc vu que tout cela se termine dans Romains 1, pour l'être humain qui prend la connaissance de Dieu, rejette la connaissance de Dieu et devient imbécile, et il transforme la vérité relative à Dieu en idole et en image. Il la pervertit donc et finit par devenir un idolâtre qui s'expose à la fureur et à la colère de Dieu. La première épître de Corinthiens, chapitre 1, nous dit la même chose. Les plus grands érudits, les personnes les plus instruites, les plus lettrées, les plus grandes élites, les plus sages de tous les sages, en atteignant le summum de leur raisonnement humain, la rationalisation humaine, la religion humaine, finissent comme des imbéciles. 1 Corinthiens 3 déclare, « Car la sagesse de ce monde est quoi ? Une folie devant Dieu. Ils n'arrivent pas jusqu'à Dieu. C'est de la folie, c'est vide, c'est inutile. » Et 1 Corinthiens 1 déclare, « Le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu. On n'y va pas à l'aide de la théologie naturelle. On n'y arrive pas grâce à un quelconque processus de raisonnement, d'intuition ou de religion humain. Et nous avons regardé ces passages. J'aimerais à présent vous conduire vers d'autres textes. Ouvrons dans 1 Corinthiens, chapitre 2. Et, une fois de plus, ceci est davantage une étude biblique qu'un sermon. Je me contente en réalité de parcourir en quelque sorte ces écritures et d'en saisir quelques éléments saillants. Je ne peux pas aller dans les détails. Je n'ai pas le temps nécessaire pour le faire. Vous pouvez lire les commentaires que j'ai rédigés sur 1 Corinthiens, Romains, le livre des Actes, quand nous y parviendrons, pour avoir plus de détails. J'aimerais cependant que vous regardiez 1 Corinthiens chapitre 2, parce qu'il s'y trouve beaucoup d'éléments de réponse à notre question. Les païens peuvent-ils être sauvés sans l'Évangile? La fin du verset 10. 1 Corinthiens 2. En commençant par la dernière moitié du verset 10 dit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Voici un principe simple. Si nous voulons savoir ce que Dieu pense, si nous voulons connaître les profondeurs de Dieu, si nous voulons connaître les choses qui ne nous sont pas accessibles, nous avons la possibilité de savoir certaines choses au sujet de Dieu. Il est puissant, c'est un Dieu d'ordre, il est complexe, c'est un Dieu de beauté, il est un Dieu d'amour. Nous pouvons voir beaucoup de choses dans la création, et nous pouvons tirer plusieurs conclusions. Mais si nous voulons savoir ce qui ne se trouve pas en surface, ce qui n'est pas en quelque sorte visible de manière empirique. Si nous voulons connaître le côté spirituel de Dieu, si nous voulons connaître la loi de Dieu, ou si nous voulons savoir au sujet du salut de Dieu, nous voulons apprendre au sujet de la justice de Dieu, la rédemption de Dieu, les choses qui sont en dessous de la surface. L'Esprit sonde ces choses. Nous devons savoir que l'Esprit de Dieu connaît les choses profondes. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit est Dieu, d'accord ? L'Esprit de Dieu est Dieu. Il fait un avec Dieu. Et nous n'avons donc pas accès aux profondeurs. Nous avons uniquement accès à ce que nous pouvons voir, ce qui est empirique, ce qui se trouve en surface, ce qui est perceptible au sens humain. Nous ne connaissons pas les choses spirituelles au sujet de Dieu, la nature de Dieu, l'essence de Dieu, la volonté de Dieu, le salut de Dieu. Nous ne connaissons pas ces choses. L'Esprit, lui, les connaît. Au verset 11, c'est en quelque sorte une analogie. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui ? Je ne connais pas vos pensées. Vous ne connaissez pas mes pensées. Nous ne connaissons pas les pensées les uns des autres. Nous pouvons être proches. Nous pouvons être mariés. Nous pouvons être dans la même famille. Nous pouvons travailler dans la même entreprise, sans pour autant avoir accès aux pensées les uns des autres. Nous ne savons pas ce qui est évident. Le seul qui connaisse les pensées est l'Esprit de l'homme qui entretient ses pensées. Et ce n'est qu'une analogie. Nous voici donc avec Dieu. Nous sommes exactement comme nous sommes les uns avec les autres. Nous sommes susceptibles de connaître ce que nous voyons. Nous sommes capables de voir un certain nombre d'attitudes. Nous sommes en mesure de parvenir à un certain nombre de conclusions. Mais nous ne connaissons pas les choses profondes. Nous ne connaissons pas la pensée, ce qui se passe dans l'esprit, dans le cœur d'un individu. Et il en est de même avec Dieu. Nous pouvons voir ce qui est évident à travers ce qu'il a créé, mais nous ne pouvons pas connaître les choses profondes de Dieu, pas plus que je suis capable de savoir ce qui est en vous. L'Esprit de l'homme sait ce qui est en lui. Et l'Esprit de Dieu connaît les choses profondes de Dieu. Ainsi donc, pour connaître les vérités qui sauvent, pour connaître les vérités profondes de Dieu, les vérités spirituelles, nous avons besoin qu'elles nous soient révélées. C'est pour cette raison que le verset 11 déclare « Personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Ensuite, il poursuit en disant « Or, nous, ce sont les apôtres. Il s'agit de Paul et des autres apôtres qui ont écrit l'Écriture. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Qu'est-ce qui nous a été gracieusement donné par Dieu ? Le pardon du péché, le salut, l'espérance de la vie éternelle, toutes les bénédictions de la justification, la sanctification, la glorification. Il n'est pas possible de connaître ces choses grâce à la raison humaine. On ne saurait trouver ces choses en se servant d'un tube à essai au cours d'une expérience. On ne peut pas apprendre cela en rationalisant. C'est quelque chose qu'on ne parvient à connaître que grâce à la révélation du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas savoir au sujet du ciel, à moins que la Bible ne le révèle, n'est-ce pas ? Vous ne pouvez pas vous y rendre sans en avoir entendu parler. Vous ne pouvez pas savoir au sujet du salut, si la Bible ne vous en parle pas. Vous ne pouvez pas savoir comment obtenir le pardon, le plan de Dieu pour la rédemption. Paul dit donc que nous avons reçu cette information. Paul, évidemment, qui à lui seul a rédigé au moins 13 épîtres dans le Nouveau Testament, et les autres qui ont écrit l'Écriture, sont inclus dans le « nous ». Nous avons reçu l'Esprit qui est de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été données de Dieu. Et il dit ensuite, « Lesquelles aussi nous proposons ?» Verset 13, « Non point avec les paroles que la sagesse humaine enseigne, mais avec celles qu'enseigne le Saint-Esprit. » En combinant les pensées spirituelles aux paroles spirituelles, c'est une affirmation importante. Il ne s'est pas contenté de nous donner des pensées. Le Saint-Esprit ne s'est pas contenté de nous donner des pensées. Mais il nous a également donné quoi ? Des mots. Et nous avons écrit ces mots. Toute écriture est inspirée de Dieu, n'est-ce pas ? Et 1 Pierre déclare, « Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et ils ont écrit. C'est notre seule façon de savoir quelque chose au sujet de la rédemption. C'est le seul moyen de savoir quelque chose au sujet du salut. C'est la seule manière de connaître les choses qui sont en dessous de la surface, les profondeurs de Dieu. Vous descendez dans le puits spirituel, et cela ne nous est accessible que parce que cela a été donné par le Saint-Esprit aux apôtres qui l'ont écrit. Et ils ont pris des pensées spirituelles qu'ils ont traduites en paroles spirituelles. » Regardez à présent verset 14, et nous pourrions prendre ce verset et le laisser tomber sous les yeux de n'importe quel adepte de la théologie naturelle. Écoutez ceci. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge, ou les comprend, ou les évalue, ou les examine. Voilà le problème. Un homme naturel ne reçoit pas l'aide de la révélation surnaturelle, qui n'est pas aidée par l'Écriture. Un homme naturel ne peut pas connaître les choses que le Saint-Esprit est le seul à savoir. Il ne peut pas saisir les choses profondes. Elles constituent une folie pour lui. Elles sont complètement stupides pour lui. C'est ce qui est dit. Il ne peut pas les concevoir. Il ne peut pas les comprendre. Il n'est pas capable de les saisir, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Elles ne sont pas appréciées de manière rationnelle. Elles ne peuvent pas être examinées par un esprit rationnel. Elles ne peuvent pas être examinées par une quelconque étude empirique. Elles ne peuvent pas être saisies par une quelconque intuition humaine. Ce n'est pas accessible. Où mène donc la théologie naturelle? Voici le verset des théologiens naturels. La théologie naturelle ne vous amène nulle part. Vous ne pouvez pas concevoir les choses de Dieu. Elles sont de la folie pure. Elles sont complètement stupides. Vous ne pouvez pas les comprendre parce qu'on n'en juge qu'avec la puissance et la révélation du Saint-Esprit. C'est un verset très important. Mais pour ceux d'entre nous qui connaissent l'Écriture, qui ont été enseignés par le Saint-Esprit à travers les Écritures, la fin du verset 16 dit « Nous avons la pensée de Christ ». Et cela est vraiment crucial, parce que ça complète la Trinité, le Père et Dieu. L'Esprit de Dieu connaît les profondeurs de Dieu avec précision, les choses qui ne sont pas perceptibles en surface par les sens, les cinq sens, ni par notre raison humaine. Lui, le Saint-Esprit, connaît toute la profondeur des vérités spirituelles qui constituent la pensée du Christ. Qu'est-ce que la pensée du Christ? C'est la manière dont il pense. Nous savons comment pense le Christ. Vous dites, comment savons-nous comment pense Christ? Parce que c'est révélé ici, n'est-ce pas? Nous savons comment il pense. Nous connaissons les pensées de Dieu par rapport au salut. Nous connaissons les pensées du Christ en ce qui concerne le salut, parce que le Saint-Esprit nous les a révélées ici dans l'Écriture. L'homme naturel, sans aide de la pensée du Christ qui est révélée à travers le Saint-Esprit, ne va nulle part. Il finit sans la moindre compréhension. Il termine comme un idiot exactement comme Romains 1 l'a dit, tout comme 1 Corinthiens l'a dit. C'est la même chose qui est répétée encore et encore. Que vous soyez dans Romains 1, 1 Corinthiens 1 ou 1 Corinthiens 2, vous obtenez le même résultat. L'être humain, laissé à lui-même, termine comme un imbécile et se retrouve en jugement. Le seul moyen de connaître la pensée de Dieu en ce qui concerne les choses profondes, les choses qui ont trait au salut, c'est à travers la révélation de l'Écriture. C'est pour cela qu'il est dit que nous vivons par toute parole qui sort de quoi? De la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. C'est pour cette raison que Jésus, en Jean 14, verset 26, dit aux disciples, « Et l'Esprit Saint viendra sur vous, et il fera ceci. Il vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous instruira pour vous permettre d'écrire les choses profondes, qui ne sont perceptibles ni au sens humain, ni à la raison. Il vous faut la révélation du Saint-Esprit pour connaître les choses profondes, les choses relatives au salut, qui constituent la pensée du Christ. Nous, dit l'apôtre Paul, avons la pensée de Christ. Nous savons exactement comment Christ pense. Nous savons exactement ce que Dieu pense par rapport à ces questions, parce que cela nous a été révélé par le Saint-Esprit. On ne parvient pas à la connaissance véritable de Dieu sans la Bible. On n'accède pas à la véritable connaissance de Dieu sans l'Évangile de Jésus-Christ. Le contraire est vrai. On finit par devenir fou. On finit par ne pas comprendre. On termine dans l'ignorance. Et le mieux que la sagesse humaine puisse produire est une ignorance sophistiquée, une folie sophistiquée. Allons à présent au 17e chapitre des Actes, parce qu'on peut en dire plus. Mais je dois continuer d'avancer pour arriver aux autres passages de Actes 17. J'ai plusieurs fois eu le privilège de prêcher dans l'Aréopage, qui se trouve sur la colline de Mars à Athènes. Ceux d'entre vous qui ont visité Athènes se sont peut-être rendus à cet endroit. Il se trouve tout juste en dessous du Parthénon, qui, bien sûr, est la célèbre acropole où les fausses religions de l'Empire grec font leur culte. Et c'est en quelque sorte entre ce lieu élevé et celui qui se trouve plus bas, l'agora, le marché. C'est cette colline qu'on appelle la colline de l'Aréopage de Mars. C'est là où les philosophes avaient l'habitude de se retrouver et aux temps anciens. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas la presse écrite comme nous la connaissons aujourd'hui. Tout était verbal, et on allait à l'école, comme on le faisait à l'époque, et on montait là-haut, et les diverses élites, les personnes lettrées, les philosophes, les orateurs, se trouvaient tous là-haut, et ils avaient leur petit groupe d'adeptes, et ils exposaient leur philosophie. Et Paul s'est donc rendu là-haut, et a fait en essence ce qui constituait une chose normale à faire au verset 22. Ils suivaient la mode. Le verset 21 déclare qu'ils aimaient se rendre là-haut et entendre de nouvelles choses. Ainsi, Paul s'est tenu au milieu de l'aréopage et a dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Eh bien, pour certaines personnes, aujourd'hui, cela pourrait sembler suffisant. Vous savez, juste être extrêmement religieux à tous égards, et c'est tout ce qu'il faut. Et si vous êtes très religieux en tout point, vous savez que Dieu va considérer cela comme une assez bonne affaire, et vous serez admis, même si vous ne savez rien de plus. Mais il leur dit, « Je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Comme c'est intéressant. Ils ont beaucoup d'autels là-haut, et plusieurs dieux qu'ils adorent. Ils avaient pourtant cette impression qu'ils pourraient en manquer un, et qu'ils ne voulaient pas l'offenser. Ils ne savent pas qui il est, mais juste pour se débarrasser d'une quelconque offense inutile, ils ont fait une concession et ont érigé un autel au Dieu inconnu. Et il leur dit, « C'est quelque chose d'extrêmement religieux que vous faites là. Ce que vous faites est noble. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous n'avez pas encore reçu sa révélation. Vous n'avez pas l'Ancien Testament. Vous ne savez rien au sujet de Dieu qui est le Créateur, le Dieu qui soutient l'univers, le Dieu qui est le Dieu d'Isaac et Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu vivant et véritable, le seul vrai Dieu. Vous ne savez rien au sujet de ce Dieu, mais vous êtes très religieux, et vous avez fait un noble effort, braves gens. Vous l'avez vraiment fait. Vous avez fait autant que vous pouviez dans la révélation surnaturelle, et vous avez fabriqué ce truc pour le Dieu inconnu. » Il leur dit au verset 23, « Ce que vous révérez, sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Permettez-moi de vous dire, gens ignorants, ce que c'est en réalité. » Ils étaient donc là, ayant atteint leur quintessence religieuse. Et pourtant, ils étaient aussi ignorants qu'il est possible de l'être. Il dit donc, « J'aimerais vous dire qui est ce Dieu que vous ne connaissez pas. » Ils ne connaissaient pas Dieu, et Dieu savait qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Paul savait qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Et Paul veut qu'ils sachent qu'ils ne connaissent pas Dieu. Il dit, « Permettez-moi de vous le présenter. C'est le Dieu qui a créé le monde et tout ce qu'il renferme. Puisqu'il est le Seigneur ou souverain du ciel et de la terre, il n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes, tout comme il n'est pas servi par des mains humaines. On ne va pas vers lui avec une assiette pleine de choses. On ne met pas une couronne autour de son cou. On ne lui fait pas un certain genre d'offrande. Ce n'est pas le genre de Dieu qu'il est. Il n'a besoin de rien. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. » Verset 26. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. C'est un grand Dieu. C'est le Dieu des dieux. Il s'agit du Créateur. C'est celui qui a fait toutes choses sur terre et tout ce qui existe dans le ciel. C'est un être spirituel qui ne saurait être confiné dans un quelconque genre de temple. Et ils avaient tous ces temples pour les divinités de leur machination. Ce n'est pas un Dieu qui a besoin qu'on lui tende toutes ces petites choses banales. Il est lui-même celui qui donne la vie et le souffle à toutes choses. Il a créé toutes choses, et il soutient toutes choses et perpétue toutes choses, par le pouvoir qu'il a donné la vie. Il est le Dieu qui détermine quelles nations existent, et où elles existent, et quand elles existent, leur point de départ, leur fin. Il est le maître de l'histoire. Tel est le Dieu que vous ne connaissez pas. Tel est le Dieu au sujet duquel vous êtes ignorant. Vous ne pouvez pas vous contenter de vénérer une divinité en disant, « Eh bien, c'est vraiment le mieux qu'ils puissent faire. Ils sont en fait en train d'adorer le véritable Dieu. » Non, il n'en est rien. Paul dit que ce n'est pas le cas. Vous n'êtes pas en train de l'adorer. Toutefois, il admet au verset 27, « Vous pourriez être en train de chercher Dieu. Vous pourriez en quelque sorte vous efforcer de le trouver. Si, peut-être, ils avancent à tâtons et le trouvent. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils tâtonnent avec l'idée ou la pensée. Si nous cherchons suffisamment à tâtons et titubons en quelque sorte, autant qu'il faut dans nos rêveries et nos intuitions et expérience religieuse. Il se pourrait bien que nous trouvions ce Dieu. » Et il ajoute au verset 27, « Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, vous savez jusqu'à quel point il est près. » Verset 28, « Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Savez-vous à quel point Dieu est près du païen? Il est tellement près qu'il est là. Il est omniprésent. Il est la source de la vie. Il ne serait pas capable de respirer une nouvelle fois si Dieu n'était pas là. C'est à ce point qu'il est prêt, et pourtant, ils ne le connaissent pas. Ils continuent de tâtonner, ils continuent de chercher, ils restent dans l'ignorance. Ils demeurent incapables de le trouver, bien qu'ils soient tout prêts. Ils ne le trouvent pas. C'est ça le point principal. L'un de leurs poètes reconnaît même. Il est dit au verset 28, « Comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes, nous sommes aussi, nous sommes également de sa race. Avant l'évolution, personne n'avait cette pensée stupide selon laquelle personne multiplié par rien égale tout. Personne fois rien égale tout. Avant l'évolution, personne ne pouvait sortir quelque chose d'aussi idiot que le fait qu'absolument tout soit sorti de rien du tout. Tout le monde comprenait qu'il y avait une cause à chaque effet, qu'il était nécessaire qu'il existât un créateur, qu'il fallait qu'il y ait un créateur personnel, qu'il fallait qu'il existât un créateur moral. Parce que nous sommes des personnes qui comprennent la loi morale. Il était nécessaire qu'il existât. Il le savait. Et même un poète païen a déclaré. Nous savons qu'il y a un créateur. Et nous savons que nous sommes son produit. Nous savons que nous tâtonnons. Et Paul dit. Vous savez quoi? Il est vraiment très très près. Parce qu'en lui, vous vivez et bougez. Il est vraiment très très près et vous tâtonnez. Et aussi près qu'il puisse être. Et peu importe combien vous tâtonnez. Vous ne pouvez pas vous connecter. Vous ne pouvez pas vous connecter. En fait, vous savez ce que vous avez fait. Vous avez fait une chose terrible. Verset 29. Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'imagination de l'être humain. Vous savez ce qu'ils font. Voici ce qu'ils font. C'est exactement ce que Romains 1 dit. Ils avancent à tâtons. Dieu est très très près. Leur sens leur indique qu'il doit exister un créateur. Leur sens leur disent, la raison leur dit qu'il est intelligent, il est complexe, il aime la beauté, il est doté d'un pouvoir immense, etc., etc. Leur sens leur donne beaucoup d'informations au sujet de Dieu. Et il est très près, étant donné que le souffle est l'essence même de la puissance de vie de Dieu, par laquelle ils survivent. Il est très près. Ils avancent à tâtons. Dieu est près. Mais vous savez ce qui se passe? Au lieu de venir connaître le véritable Dieu, ils fabriquent une idole. C'est exactement ce qu'ils font. Et c'est exactement ce qui est dit dans Romains 1. Car comme nous l'avons vu dans 1 Corinthiens 2, par leur théologie naturelle, ils sont incapables de comprendre Dieu. Ils ne peuvent pas comprendre les choses de l'Esprit de Dieu. Ils ne peuvent pas comprendre le chemin qui mène à Dieu. Ils ne peuvent pas comprendre le moyen de parvenir au salut ou à une relation avec Dieu. Ce qui fait qu'ils se retrouvent avec des idoles. Des idoles! Cela fait qu'aucune faveur n'a été faite au véritable Dieu. On s'est contenté de faire de lui une chose en pierre qu'on appelle ici Dieu inconnu. Il ne s'agit pas de Dieu. Il ne faut pas penser que Dieu soit une pierre ou que Dieu soit un morceau d'or ou un fragment d'argent. Et vous savez quoi? Le verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, vous savez. Dieu a fait preuve de patience à votre égard jusqu'à présent. Annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à quoi? Se repentir. De quoi? De votre religion. Vous repentir de votre religion. Vous repentir de votre idolâtrie. Vous repentir de vos faux dieux. Vous repentir de votre compréhension erronée de Dieu. Vous repentir. Il ne parle pas de se repentir de ces péchés catégoriques dont nous parlons habituellement quand nous pensons la repentance. Il dit que vous feriez mieux de vous détourner. Se repentir signifie faire un virage à 180 degrés et prendre la direction opposée. Vous feriez mieux de vous détourner de cette fausse religion et vous feriez mieux de prendre la bonne direction. Pourquoi? Verset 31. Parce qu'il a fixé un jour. Et quel jour est-ce? Un jour où il jugera. Qui? Le monde. Il est en train de parler du jour du jugement. Le jour du jugement arrive et il jugera ce monde selon la justice et il jugera ce monde à travers un juge qu'il a déjà désigné. Jean 5, versets 22 à 27 déclare « Le Père, a remis tout jugement au Fils, l'homme qui l'a désigné, c'est-à-dire Jésus. Dieu va juger le monde. Il jugera le monde dans l'injustice, c'est-à-dire sur une base juste, une base vraie et juste et équitable et juste, par Christ. Il a désigné Christ comme juge, et il a prouvé à tous les hommes que Christ est le juge, en le ressuscitant d'entre les morts. Oups, Paul est entré en plein dans l'Évangile, et il a très probablement donné davantage d'explications à ce sujet, puisque le verset 32 dit « Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, il a dû expliquer la résurrection, il a dû expliquer la mort de Christ. Comment peut-on expliquer une résurrection si on n'explique pas la mort? On doit supposer qu'il a prêché la croix, étant donné qu'il était déterminé à ne rien savoir d'autre que la croix. Ainsi donc, il a prêché la croix, et il a prêché la résurrection, et il dit « Regardez, vous devez vous repentir de votre fausse religion, bien que vous soyez extrêmement religieux à tous égards. » Comme le dit le verset 22, « Peu importe que vous soyez parvenu à la conclusion que vous êtes la progéniture de Dieu, c'est un beau sentiment. Le problème, c'est qu'on ne parvient pas à la connaissance de Dieu par ce canal. Il est très près, vous tâtonnez. Vous êtes incapable de vous connecter. Il n'y a qu'une façon de se connecter, et c'est à travers l'Évangile de Jésus-Christ, qui est mort en substitut pour le péché, a payé le prix pour le péché et est ressuscité. Tandis que Dieu a affirmé la satisfaction de cette mort, il l'a ressuscité d'entre les morts et a fait de lui Seigneur et Juge. C'est ça le sentier du salut par la foi en Christ, et lui-même jugera ceux qui le rejettent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à quoi? À se moquer, ricaner, n'est-ce pas? Et même lorsqu'ils ont entendu l'Évangile, la prédication de la croix était pour eux quoi? Une folie. 1 Corinthiens 1. Ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas la comprendre. Ils étaient perdus sans elle. Mais lorsqu'ils en entendent parler, ils se moquent. C'est de la folie. Mais certains d'entre eux ont dit, « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Nous en voulons davantage. » Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denis, l'Aréopagite, une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Certaines personnes ont saisi le message, et elles ont cru. Vous voyez, le Seigneur nous donne un texte ici, qui dit qu'il y a un homme qui est allé vers les païens et a dit, « Vous êtes très religieux, et vous savez qu'il existe un Dieu. Vous n'avez pas la Bible, vous n'avez pas l'Évangile. » Il ne dit pas, « Les gars, ne vous inquiétez pas pour ça. » Il dit, « Vous feriez mieux de vous repentir, vous feriez mieux de vous repentir, vous feriez mieux de faire demi-tour et de prendre l'autre direction. » Et l'autre direction, c'est que vous feriez mieux de comprendre que le seul moyen par lequel vous connaîtrez jamais Dieu est de saluer le pardon. C'est en comprenant que Dieu a désigné un juge, et ce juge qui jugera tous les pécheurs. Ce juge n'est personne d'autre que l'homme. Et l'homme, c'est Christ Jésus, qui est mort sur la croix comme sacrifice pour le péché, et a été ressuscité d'entre les morts par Dieu, afin d'affirmer qu'il a offert un sacrifice suffisant et complet. Et en croyant, comme dit Romains 10, que Jésus est Seigneur, en confessant de la bouche que Jésus est Seigneur, et en croyant du cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, on parvient au salut. L'homme naturel est ignorant. L'homme naturel est idolâtre. C'est sa situation. C'est ce qu'on voit dans Romains 1. Il y est ignorant et idolâtre. On le voit dans 1 Corinthiens 1. Et qu'est-ce qu'il est? Il est stupide et se croit sage, alors que sa sagesse n'est que folie pour Dieu. Et voici à nouveau cela. Les plus sages des sages, les plus lettrés, l'élite, la crème d'Athènes, les plus religieux, et les plus rationnels, et les plus érudits, marchent en tâtonnant pour essayer de trouver Dieu, et terminent comme des idolâtres, qui feraient mieux de se repentir pour éviter d'être jugés éternellement par celui qui leur offre le salut à travers sa mort et sa résurrection. L'homme naturel est ignorant. L'homme naturel est idolâtre. L'homme naturel est incapable de connaître Dieu grâce à un quelconque effort naturel, mais il n'est pas seulement dans le flou ou une quelconque position de neutralité. Ouvrez dans 1 Corinthiens chapitre 10. Il y a vraiment de quoi anéantir cette hérésie. 1 Corinthiens chapitre 10. Permettez-moi de vous donner un petit scénario. Vous êtes chrétien, vous vivez à Corinthe. Vous vous êtes converti et vous êtes sorti d'une fausse religion, et vous vous mariez. Et bien sûr, votre épouse est peut-être chrétienne. Supposons que ce soit le cas. Vous êtes tous les deux venus à Christ. Vous allez à l'église. Cependant, votre belle-mère adore encore Dionysos. ou un autre faux dieu. Et votre belle-mère dit, « Vous savez, il y a un grand banquet au temple, et c'est vraiment important que vous veniez, parce qu'ils vont honorer votre beau-père, et toute la famille sera là, et c'est vraiment important que vous soyez présent. » Et ainsi votre épouse, en chrétienne bien intentionnée qu'elle est, ressent la pression de sa mère, et vous dites, « Tu sais, je ne veux pas y aller, mais en même temps, je ne souhaite pas envenimer la situation avec ma belle-mère. Que vais-je faire ?» Alors vous vous laissez entraîner jusqu'au temple de Dionysos, et vous y entrez, et il y a une orgie en faveur d'un faux dieu, et il y a énormément à manger, et vous mangez une partie de la nourriture, tandis que l'autre est offerte en sacrifice au faux dieu, et vous vous sentez vraiment mal à ce sujet. Mais, vous savez, après tout, c'est très difficile lorsque votre belle-mère est contrariée, parce que votre épouse le ressent, et ça n'arrange vraiment pas les choses. Et puis, quand votre épouse n'est pas heureuse, vous n'êtes pas heureux, alors vous le faites. Je veux dire que vous pouvez imaginer la pression. Ce n'est qu'un des scénarios possibles. Il pourrait y en avoir plusieurs autres. Ensuite, vous venez à la table du Seigneur le jour suivant, et vous communiez à la table du Seigneur, et vous êtes assis là, et vous prenez le pain et la coupe, et honorez Dieu, à peine sorti d'une fête, ou en rendez un culte à un faux Dieu. Maintenant, quelqu'un pourrait dire, « Eh bien, vous savez, ces gens ne connaissent pas autre chose. Ils font un bel effort pour tenter de trouver le Dieu véritable. C'est un bel effort. Et s'ils s'efforcent de vivre un cran au-dessus des autres types de leur communauté, peut-être que Dieu les approuvera. J'aimerais que vous saisissiez l'image ici. Verset 20. C'est exactement ce qui se passe à Corinthe, verset 20. « Non, dit-il, une idole n'est pas vraiment quelque chose. Une idole, en elle-même, une idole en pierre, n'est rien du tout. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Vous comprenez cela? Ce n'est pas un sacrifice à Dieu. Au fait, les païens, qu'est-ce que c'est qu'un païen? Quiconque n'est pas juif. Les nations, ethnos, les nations, tout le monde, les païens. Les païens, tous les païens, le monde entier, tous sans exception. Et tout ce qu'ils sacrifient, à leur soi-disant idole en pierre, en argent et en or, et les idoles en bois, ou quoi que ce soit d'autre, n'est pas offert à Dieu. Ils n'engagent pas le Dieu véritable. Ils engagent les forces de l'enfer. Ils sont liés à Satan et aux démons. J'espère que vous comprenez cela. Vous dites, eh bien, ces pauvres païens bien intentionnés, vous savez, ils essaient seulement de faire de leur mieux avec les moyens qu'ils ont pour aller jusqu'à Dieu. Le fait est qu'ils sont plutôt en train de cheminer vers l'enfer. Ils se connectent aux forces démoniaques qui personnifient les idoles qui n'existent pas. Il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu véritable, n'est-ce pas? Il y a des gens qui croient que, si, parce que des démons personnifient les dieux qu'ils adorent, ils font ce qu'il faut pour garder ces gens en lien avec ces divinités, bien qu'il s'agisse de faux dieux. Ce n'est pas vraiment anodin. Ce n'est pas seulement dommage qu'ils soient si ignorants. Ce n'est pas seulement dommage qu'ils soient dans cette espèce de flou. Ce n'est pas ça. La raison naturelle qui tente de trouver Dieu se retrouve dans l'ignorance. Quand la raison naturelle essaie de trouver Dieu, elle devient idolâtre. Quand la raison naturelle tente de trouver Dieu, elle devient démoniaque. Des démons se cachent derrière toutes les fausses religions. Ils sont derrière tous les systèmes philosophiques et religieux. Ils sont derrière, et c'est un passage merveilleux. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Ils sont derrière tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Toute idée anti-Dieu est démoniaque. C'est démoniaque. Tout. Tout ce qui est faux à propos de Dieu. Tout ce qui n'est pas biblique. C'est démoniaque. Satan se déguise, tout comme ses démons, en ange ou ministre de lumière. Le dieu des bouddhistes est un démon. Le dieu des musulmans est un démon. Le dieu des hindous sont des démons. Le dieu des mormons est un démon. Le dieu des témoins de Jéhovah est un démon. Et toute autre religion qui rejette Christ, tout cela est démoniaque. Cela remonte loin dans le passé, à Deutéronome, le Pentateuque, l'ancienne loi. Deutéronome 32 verset 17. Moïse a écrit, « Ils ont offert des sacrifices à des démons qui ne sont pas Dieu. » Vous pouvez également regarder le psaume 106 au verset 37. « Ils ne vont pas à Dieu, ils vont à Satan et aux démons. » Vous savez, une bonne manière d'illustrer cela se trouve dans 2 Jean. Il y a 3 versets, 9, 10 et 11. Et dans 2 Jean, 9, 10 et 11, Jean écrit que si on se détourne de ce que la Bible enseigne sur le Christ, si on se détourne de l'enseignement biblique au sujet du Christ, nous ne sommes pas en train de parler de quelqu'un qui renie le Christ, qui nie qu'il a vécu, qui nie qu'il est mort, Mais si vous déviez de ce que la Bible enseigne au sujet du Christ, il est dit ceci, « Quiconque agit ainsi n'a pas Dieu. Ce qui importe qu'il est possible de croire en la Trinité. On peut croire en la naissance du Christ. On peut croire en la vie de Christ. On peut croire en la mort du Christ. Mais si on dit qu'il n'est pas Dieu, ce détail, si on dit qu'il n'a pas mené une vie sans péché, si on dit, eh bien, qu'il n'est pas vraiment mort d'une mort substitutive, si on dit qu'il n'est pas littéralement ressuscité d'entre les morts, si on dit quoi que ce soit qui soit bibliquement révélé au sujet du Christ, on n'a pas Dieu. Alors, écoutez ceci, si vous vous trompez au sujet de Jésus, c'est que vous ne connaissez pas Dieu. À plus forte raison, si on ne sait rien au sujet de Jésus, on se contente, dans ce cas, de se lier aux démons. Les gens m'ont demandé, « Y a-t-il plusieurs religions satanistes dans notre société ?» Oui, tout sauf la vérité. Tout ce qui ne relève pas du véritable christianisme est satanique, à un degré ou à un autre, sous une forme ou sous une autre. Ce n'est pas que tout le monde, comme c'est le cas pour certains, adore Satan. Il y a des gens qui adorent Satan en toute conscience. Mais quiconque n'adore pas le Dieu véritable et vivant à travers Jésus-Christ adore en fait Satan. C'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter, je pense, car sinon Dieu devient très jaloux. Verset 22. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Est-il dit au verset 21? Verset 22. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Deutéronome 32, verset 21. Dieu a dit, « Israël a excité ma jalousie, parce qu'il n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Dieu ne regarde pas une idole en disant, « Oh, bien joué, cet effort suffit pour que je te laisse entrer. » Dieu regarde plutôt une idole et dit, « Cela me rend jaloux, ça excite ma colère, et on n'a pas intérêt à provoquer la colère du Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas plus fort que lui. Je ne pense pas que vous vouliez avoir affaire à Dieu, si. C'est seulement si on était plus fort que Dieu qu'on voudrait se le mettre à dos. Et ce n'est pas le cas. Soyons un peu sérieux. Ainsi, le mieux qu'un homme puisse faire, sa meilleure religion, sa meilleure raison, produit la folie, l'ignorance, l'idolâtrie, le connecte aux forces de l'enfer et les attire dans sa vie. Un autre passage de grande importance, Romains 3. Je n'ai pas le temps de le développer entièrement, mais j'ai juste besoin de faire quelques commentaires. Romains 3, verset 10. Et ensuite, je vous en donnerai un autre, et nous aurons terminé. Romains 3, verset 10. Voici l'acte d'accusation universelle de l'humanité. Romains 3, verset 10. Il n'y a point de juste. Combien y en a-t-il ? Pas même un seul. Si cela n'avait pas été écrit là, quelqu'un aurait pu dire, si moi. Et Dieu dit donc, non, pas même toi. Il n'y a pas de juste, non, pas même un seul, personne. Il n'y a personne qui comprend. Nous avons vu cela dans Romains 3, verset 11. Nul ne cherche Dieu. Il n'emprunte pas cette voie. On n'y arrive pas en prenant le sentier naturel. Au contraire, tous se sont égarés. Ils sont tous perdus. Ils sont tous pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ils ne font aucun bien. Ce n'est pas bien. Comme John Gerstner avait l'habitude de le dire, c'est mauvais bon. Cela pourrait être bien sur le plan humain. C'est de la bienveillance ou de la gentillesse, ou alors une expression de charité envers quelqu'un. Mais c'est mauvais bon, parce que la motivation n'est pas de glorifier Dieu, et tout ce qui ne recherche pas la gloire de Dieu constitue une mauvaise motivation. Ils ne font pas le bien. En fait, la vérité dans cette histoire, c'est qu'ils sont misérables, au-dedans d'eux-mêmes. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. C'est une description de l'humanité. Et qu'est-ce que c'est ? Verset 19, la fin du verset. « Afin que toute bouche soit fermée. Chaque bouche est fermée. N'ouvrez pas votre bouche pour tenter de vous défendre. Ne dites pas, « Dieu, j'ai fait des efforts. Je suis quelqu'un de bien, c'est sûr et certain. Je suis meilleur que ces gens-là. Et je suis beaucoup mieux que certaines personnes que je connais et que tu connais toi aussi. Vous fermez vos bouches. Vous vous taisez. Vous ne rendez des comptes qu'à Dieu. Tout ce que la révélation naturelle fait, c'est vous rendre redevable et inexcusable devant Dieu, et elle vous ferme la bouche. Vous n'avez rien à dire, car au verset 20 il est dit, « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, par ses œuvres, c'est-à-dire par vos bonnes œuvres, vos actes religieux, Vous ne pouvez pas y arriver grâce à vos bonnes œuvres. Et écoutez-moi, s'il était possible de parvenir au salut sans l'Évangile, alors le salut s'obtiendrait par les œuvres. Personne ne sera justifié de cette manière. Il n'y a qu'un moyen d'être justifié, et il poursuit pour le décrire. Verset 22. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, et cela s'applique à tous ceux qui croient. Vous devez venir à Christ. Vous devez croire en Christ, le seul chemin qui mène au salut. Verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le seul moyen d'être sauvé, c'est par la foi en Jésus-Christ. Voilà encore un passage. 2 Thessaloniciens 1, verset 8. C'est bref, mais très efficace. 2 Thessaloniciens 1, verset 8. En fait, nous devrions probablement commencer au verset 7. Le verset 7, au milieu du verset. Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Il s'agit de la seconde venue. Ce sera quand? C'est le jour, vous vous souvenez, le jour dont il est question dans Actes 17, le jour qu'il a choisi, où l'homme Jésus sera juge. Quand viendra ce jour? Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, et il arrive dans un jugement final féroce. Remarquez à présent le verset 8 qui est très très important. La version anglaise dit qu'il accordera la rétribution. Rétribution signifie jugement. Cela veut dire paiement, punition. Pour qui? Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et qui sont-ils? Ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. C'est conçu en langue grecque pour être une explication de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Le mot « et » aurait été mieux traduit par « même ». Étant donné qu'il s'agit d'une description plus détaillée des mêmes personnes, ce jugement final, enflammé, s'abat sur ceux qui ne connaissent pas Dieu, étant donné qu'ils n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus, et ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Si vous ne croyez pas l'évangile, vous ne connaissez pas Dieu. Si vous ne connaissez pas Dieu, vous serez jugé. Vous pouvez lire le livre de l'Apocalypse et le déroulement de ce jugement de manière très détaillée. Vous voyez, ces points de vue hérétiques, d'inclusivisme et de miséricorde plus large, ou, comme un auteur l'a désigné, une lumière tardive, ou théologie naturelle. La lumière tardive se référant à ce que Peter Kraft a dit. Quand on meurt et qu'on va au ciel, ce qu'on ignore y est redressé. Tout cela est effrayant dans ses implications. C'est une hérésie accablante et meurtrière, parce que nous devrions toucher les gens avec l'Évangile pour qu'ils puissent l'entendre et être sauvés. Dieu lui-même, Augustus Strong, l'a dit dans sa théologie, non pas en ces termes. Il y a de cela beaucoup, beaucoup d'années. Dieu lui-même est l'unique source de connaissance en ce qui concerne sa personne et une relation avec lui. Et Dieu, en tant que source unique, doit nous révéler cela. Et il l'a fait à travers le Saint-Esprit, qui connaît les profondeurs de Dieu, qu'il a révélé à ceux qui l'ont écrit. Et de ce fait, nous avons la pensée de Dieu et la pensée du Christ. La théologie naturelle vous réduit à être des adorateurs d'idoles ignorants, qui traitent avec des démons et se dirigent vers le jugement divin. Elle est suffisante pour condamner. Cette révélation naturelle, cette théologie naturelle, mais pas pour sauver. Elle enlève toute excuse à l'être humain, sans lui épargner la condamnation. Notre commandement et notre devoir en tant que chrétiens responsables sont donc toujours valables. Allez de par le monde, et faites quoi? Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et c'est un bon endroit pour terminer, avec les paroles de Jésus, à la fin de l'Évangile selon Marc, les versets 15 et 16 du 16e chapitre. Allez par le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est notre commission. Elle tient, et nous sommes chargés de la faire, pour que les gens puissent entendre la vérité qui sauve. Père, merci encore pour la clarté avec laquelle la Bible parle de ces choses. Il y a plusieurs passages que nous pouvons aborder. Beaucoup d'autres qui insistent sur cette question importante. Mais ceci est suffisant pour que nous sachions que tu n'as laissé aucun doute et aucune question légitime en ce qui concerne cette affaire. La raison pour laquelle nous sommes envoyés porter l'Évangile aux extrémités de la terre. La raison pour laquelle nous allons avec une telle passion, conviction et un tel sacrifice. C'est parce qu'il est nécessaire qu'ils entendent pour être sauvés. Et puisses-tu te servir de nous, Seigneur, pour faire quoi? Puisses-tu nous rendre sensibles et impatients de présenter l'Évangile, fidèlement, en tout temps à tous? C'est notre appel, notre mission, notre commandement. C'est notre devoir, c'est notre grand privilège. Et puisses-tu exalter la vérité et renverser les mensonges et la confusion. Préserve ton peuple afin qu'il connaisse ta volonté, qui est révélée dans ta parole. Merci pour tout cela, dans le nom du Christ. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.